Merci, Monsieur le Président. Merci également, donc, en commençant, aux organisateurs de ce colloque qui ont ouvert donc la possibilité de parler aux historiens du droit. Et pardon à l'assistance, vous allez avoir deux discours d'historiens du droit successivement et en plus de cela, deux discours qui vous parleront de sujets connexes, puisque pour ma part, je vais vous parler principalement de cette question de la civilité des lois, du contrôle donc, qui permet de vérifier la civilité des lois, en précisant tout de suite, mais je vais avoir l'occasion de donner des éléments pour mieux le comprendre, qu'il ne s'agit pas de la civilité au sens des belles manières. Ça, c'est une histoire qui commence au XVIe siècle. L'histoire de la civilité au sens juridique, elle est beaucoup plus ancienne. Elle commence sans doute avec Quintilien. C'est bon. Mais j'ai manqué des instruments que Jean-Philippe Jeunet propose maintenant pour faire une vraie histoire de ce terme de civilité. Donc, c'est une histoire politique et juridique qui, elle, se termine au XVIe siècle. Donc, c'est plutôt cette histoire que je vais évoquer. Alors, le point de départ, il est commun avec Frédéric Martin, donc la question du contrôle que les juges exercent à l'égard de la législation monarchique. Peut-on considérer que le Parlement agit en juge constitutionnel? L'un de mes collègues, je veux parler de François Saint-Bonnet, pardon, a écrit un article sur ce point. Le Conseil constitutionnel, quand on a mis, lorsque en France on a instauré la QPC, la question prioritaire, pardon, de constitutionnalité, a ouvert ses portes, enfin a ouvert également sa revue aux historiens du droit pour nous demander donc de voir s'il n'y avait pas une préhistoire. Et je pensais les intéresser beaucoup en disant que oui, il y avait une préhistoire, puisque au Moyen Âge, précisément, en interprétant les choses avec un vocabulaire un peu particulier, bien sûr, c'était à l'initiative des particuliers, donc dans un cadre contentieux, qu'on pouvait mettre en branle, en marche, une procédure qui aboutissait à un contrôle de validité de la loi. C'est le contrôle de civilité. Voilà, donc ça, c'était le Conseil constitutionnel. Je dois dire qu'il y a un numéro du Conseil, des cahiers du Conseil constitutionnel sur ce point. Pour nous, ça s'est résolu par un déjeuner avec les membres du Conseil constitutionnel, une médaille, rien de plus. On ne m'a jamais parlé du contenu de ce que j'avais écrit, ni aucun de mes collègues. Mais ça, les magistrats français et les membres du Conseil constitutionnel, je ne sais pas si on peut les appeler des magistrats, je ne crois pas. Mais bon, c'est une autre histoire. Bon, alors, juge constitutionnel, on a tous envie de le dire. On ne le dit pas ou en pointillé. On a des éléments pourtant pour le dire, mais aussi beaucoup de doutes. Alors, pourquoi les doutes? Eh bien, je n'y reviens que très rapidement. D'abord, le juge, le Parlement et le roi. C'est le roi qui fait le Parlement. Alors, le Parlement, et c'est bien de dire qu'il fait le roi, mais c'est quand même beaucoup plus contestable. C'est la même autorité, c'est vrai. Donc, au nom de quoi, sur quelle base, cette autorité qui n'est pas déléguée. Ça n'est pas une forme de délégation, c'est une forme de participation. C'est autre chose. Cette autorité va pouvoir contrôler celui qui lui donne son autorité. Ça pose un problème. Sur ce point, je n'y reviendrai pas. Pour ma part, ça ne pose pas véritablement de problème. Mais la solution, c'est la représentation des hiérarchies terrestres. Et on dit toujours ces sociétés sont des sociétés hiérarchiques. Oui, c'est vrai, mais pas comme nous l'envisageons. Le terme n'est pratiquement jamais, le terme hiérarchie n'est pratiquement jamais utilisé, sauf, et à une énorme exception pour l'Église, la seule société, la seule organisation hiérarchique, c'est celle du clergé catholique, parce qu'elle culmine dans une tête qui est vraiment au sommet de cette hiérarchie terrestre. Mais les hiérarchies institutionnelles, mon Dieu, non, elles culminent en Dieu, de sorte que la tête est certes en relation avec Dieu, mais tous les degrés de la pyramide sont en relation avec Dieu. Et sur ce point, je citerai l'un des grands jurisconsultes français, Jean Doma, qui écrit « Mais tous les juges, même les plus petits, tiennent de Dieu, et au regard de Dieu, mais quelle différence entre le roi et les juges? La distance est tellement infinie que ça n'est rien, et donc le juge peut parler au nom de Dieu lorsqu'il rend un jugement, et donc contrôler le roi au nom de Dieu ou d'un droit qu'il estime pouvoir être rattaché à Dieu. » Bon, alors ça, c'est un problème que je laisse de côté. J'en viens donc à ce qui est le fond de l'affaire, c'est les règles sur lesquelles, les lois sur lesquelles s'appuie le Parlement pour contrôler la législation monarchique. Alors, si on regarde les grandes remontrances des XVIIe et XVIIIe siècles, je rassurez-vous, je les laisserai de côté, c'est un discours tellement énorme, c'est un océan sans rivage, comme on dit, et il submerge tous ceux qui essaient d'y entrer. Donc, on constate qu'ils procèdent de la manière suivante, ils font un jugement de comparaison. Le terme est chez eux, ils comparent la loi nouvelle, bon, je simplifie bien sûr pour le vocabulaire, avec une des lois dont ils estiment avoir le dépôt, ils constatent qu'il y a contrariété et en même temps ils disent que la loi qui est abolie par la loi nouvelle, eh bien précisément c'est une loi qui ne devait pas être abolie. Voilà. Donc ponctuellement, le non-enregistrement, le refus d'enregistrement se fonde sur cette constatation. C'était une loi que le juge dit inviolable dans le cas particulier donc, qui lui est soumis. Alors, le problème, bien sûr, c'est du côté du contenu de ces lois inviolables. Certaines nous paraissent relever très directement pour le juriste contemporain, certaines donc effectivement tiennent à ce que le Parlement d'ailleurs appelle les principes constitutifs de l'État, et donc comme tels, elles s'imposent au législateur ordinaire. Mais de ce point de vue, comme chacun le sait, il est très rare que la monarchie essaie de remettre en cause ces lois fondamentales. Il y a quelques exemples sur lesquels les historiens ont mis l'accent, mais c'est extrêmement peu de choses. Le seul point, bien sûr, c'est la loi de l'enregistrement, dont le Parlement, la faculté pour le Parlement d'enregistrer la loi, d'intervenir donc dans le processus de confection par l'enregistrement. Le Parlement estime que c'est une loi fondamentale. Je regrette, Pierre Bonin n'est pas là pour qu'on discute de cette question. Le monarque répond qu'il peut se passer de son Parlement pour faire la loi. Alors, sur le fond, on constate, et c'est ça qui est très, très embarrassant, c'est que le Parlement, donc pour, disons, refuser d'enregistrer, fait appel à des lois très diverses, et en particulier à des lois qui interviennent dans des domaines qui relèvent pour nous du législateur ordinaire, du droit positif le plus simplement présenté. En particulier, mais c'est normal parce qu'il conteste souvent ce qu'on appelle les édits bursaux, c'est-à-dire les mesures qui mettent en place des nouveaux impôts, et ils contestent en disant que ça porte atteinte au droit de propriété et que, par conséquent, le monarque n'a pas le droit de porter atteinte aux propriétés. Alors, c'est cette diversité des normes qui sont utilisées par le juge pour refuser l'enregistrement qui pose problème. On a le sentiment que c'est... Bon, bien sûr, il y a des constantes, mais on a le sentiment donc que c'est le juge qui prend la décision, en vertu bien sûr d'une argumentation, de déclarer telle ou telle loi inviolable. D'où le problème, bien sûr, soit toutes les lois sont inviolables, et c'est finalement ce vers quoi tend un peu le Parlement, il va paralyser, tout le monde le sait, le gouvernement monarchique, soit ça n'a pas de valeur et donc il n'y a plus de loi inviolable. Donc on a le sentiment que le concept de loi inviolable, alors je dis loi inviolable parce que c'est finalement le terme qui exprime le mieux leur pensée, et ils l'utilisent, l'inviolabilité de certaines lois, c'est-à-dire l'impossibilité pour le législateur ordinaire de remettre en cause ces lois que le juge ou l'avocat va dire inviolables. Alors, c'est là, donc, les doutes. Est-ce que ces doutes peuvent être levés ou, disons, un peu éclaircis par le recours à l'histoire? C'est ce que je vais essayer de démontrer. En effet, il y a une sorte de préhistoire médiévale. Je demande pardon aux médiévistes de qualifier l'histoire médiévale de préhistoire, mais étant donné que l'attention a été toujours centrée sur l'enregistrement moderne, on a l'impression qu'il s'agit d'une sorte de préhistoire. Donc c'est durant les trois derniers siècles du Moyen-Âge, à partir du XIIIe siècle, en gros 1350, donc XIVe siècle. Et donc la procédure qui va être ensuite désigné sous cette expression donc, d'enregistrement des lois, apparaît, se fixe, donc tant en ce qui concerne les règles à suivre, ce sera une procédure contentieuse, avec un vrai procès, des plaidoyers, une intervention du parquet, un jugement. Elle fait intervenir donc les particuliers, donc une vraie procédure. Et en outre, c'est à ce moment-là également que sont précisées, selon des méthodes que je vais, sur lesquelles je vais revenir, les critères que le Parlement doit respecter. Or, sur tous ces points, la procédure, les règles à suivre, les critères à observer, il faut donc noter que ce sont des ordonnances, une série d'ordonnances prises par la monarchie qui mettent en place ce contrôle. Et ça, c'est très important parce que, bien sûr, cela veut dire que c'est le roi et les magistrats vont constamment, jusqu'en 1789, citer ces... Enfin, 1789, on parle d'autre chose. Mais donc, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les parlements ne cesseront de revenir sur ce point. C'est vous qui avez, dirait-il au roi, qui avez mis en place ce contrôle. Et c'est la raison majeure que... Enfin, disons... approfondi par l'examen des textes, qui doit conduire, qui justifie ce qui est la position constante des magistrats sur laquelle on ne cesse, de laquelle on ne cesse de s'étonner, mais comment ces magistrats qui disent qu'ils sont les esclaves de la loi, qu'ils sont les meilleurs serviteurs du roi, ceux qui lui obéissent et qui lui obéissent en ne cessant de lui désobéir. Et la réponse, eh bien, c'est que nous ne faisons qu'obéir à ce qui est votre volonté primitive que nous trouvons dans ces ordonnances. Et donc, une partie de la légitimité de ce contrôle est contenue là-dedans. Alors, deuxième point, et c'est, nous allons en venir à la civilité. Deuxième point, le roi. Donc, ces ordonnances mettent en place une procédure que tout le monde reconnaît immédiatement parce que ce sont tous des romanistes formés au droit romain et formés également à travers les commentaires que les professeurs de droit romain fournissent, enfin, présentent dans les écoles. Cette procédure, tout le monde la reconnaît immédiatement, c'est la procédure romaine d'impugnation des rescrits. Et sur ce point, il n'y a pas de doute, il n'y aura jamais de contestation. Les termes du droit romain sont là. En particulier, donc, les lettres, j'y reviendrai, ne doivent pas être obreptis ou subreptis. C'est la formule constamment utilisée aussi par les parlements quand ils mettent en œuvre cette formule. Elles ne doivent pas léser les droits des tiers. Là, nous avons donc le fondement à partir duquel les parlements diront qu'il faut vérifier que la législation ne porte pas atteinte de manière illégitime aux droits des tiers. Et enfin, l'essentiel, elles ne doivent pas, ces lettres ne doivent pas, disent les textes romains et redisent les textes royaux, elles ne doivent pas être contra ius. Et c'est la formule du droit romain qu'on retrouve dans les ordonnances royales qui sont d'abord en latin et qui sont ensuite en français. Or, contra ius, contre le droit, donc bien évidemment, chacun le sait, je m'adresse à un public international, mais en France, au Parlement, quand un avocat dit, devant une affaire de cette complexité, je cite une plaidoirie, je me suis demandé ce qu'il en était en droit, ça veut dire qu'il va ouvrir le corpus iuris civilis. C'est tout. Hein. Et il le dit, j'ai trouvé ça, des règles qui viennent du corpus. Donc le droit, c'est le ius civile romanorum. D'où une des raisons de l'appellation, c'est un contrôle de civilité parce qu'on regarde, bon, d'abord on met en œuvre la procédure du droit civil, on met en œuvre ensuite les critères du droit civil et en particulier donc on se demande si la mesure n'est pas contra ius, contre le droit civil des Romains. Alors si ça n'était que ça, ça serait un peu étroit, ça ne donnerait quand même pas énormément de possibilités. Oui, mais il faut se souvenir que ce droit romain, c'est bien plus que le droit romain dans l'Europe médiévale et dans l'Europe des temps modernes tout autant. Donc, c'est pour les Italiens le ius per excellentiam, pour les Français aussi. Mais tout le monde le sait, Balbe va le dire, le reconnaître en Italie, en France, il y a sur ce point une interprétation particulière, le droit romain vaut pro rationé. Donc, pour la raison que les juristes sont capables de voir dans la règle du droit romain. Donc, on voit ici tout ce qu'on peut tirer de ces injonctions. Vérifier la civilité d'une mesure, c'est éventuellement la comparer avec la règle romaine portant sur le même domaine, mais à travers la règle romaine, c'est démontrer que la mesure porte atteinte à un droit qui est le droit juste par lui-même, le droit dont la raison dit qu'il doit être considéré comme droit. Donc le droit juste par son essence, le droit naturel. L'expression, enfin, le terme n'intervient pas souvent dans le vocabulaire des cours au Moyen Âge, il intervient beaucoup plus souvent dans le vocabulaire des cours durant la période moderne. Alors, donc, voilà pour les bases. Dernier point, donc non seulement les juristes français, les magistrats, les avocats comprennent ces textes en estimant qu'il faut appliquer le droit romain, mais puisqu'il faut appliquer le droit romain, il faut comprendre le droit romain à travers ceux qui en sont les maîtres. Et donc, ce sont les magistris, ce sont les doctores legum, dont l'enseignement est constamment utilisé. Et ça, c'est quelque chose d'assez essentiel. Donc, d'une part, on s'interroge. Bon, pardonnez-moi, ce sont des questions d'historien du droit, mais vous les connaissez un petit peu parce que nous en parlons tout le temps. Et donc, on s'interroge toujours sur la question de la valeur du droit romain en France, et on dit il n'est pas reçu, c'est vrai. Mais ici, vous avez, pour les juristes, une validation officielle du droit romain. C'est énorme. Et une validation officielle qui semble porter sur ce qui doit être la volonté du monarque de se soumettre aux lois. C'est également très important. Ensuite, dernier point, eh bien, non seulement il faut appliquer le droit romain, mais il faut écouter l'école. Et je pense que mon collègue Diego Quaglioni en parlera de manière plus détaillée, que c'est une des voies d'entrée par lesquelles donc se propage l'influence des thèses que les professeurs des universités diffusent pour construire un État à partir des grands principes que leur fournit le droit romain. Donc, pour aller un peu plus vite, mais je fais comme tout le monde, j'essaie de présenter de manière générale les idées que je vais développer. Donc, dans un premier temps, la civilité, il faut la comprendre à partir du contrôle de civilité, ses exigences, il faut le comprendre à partir de ses lois et à partir donc de l'enseignement de l'école. Alors, ces lois, ensuite, elles sont mises en œuvre par le Parlement, donc avec en s'aidant donc de cette scolastique juridique. Et le deuxième point, donc, je pense que je n'aurai le temps de développer que ces deux points. Donc, le deuxième point consistera pour moi à présenter quelques données sur l'activité à laquelle donnent lieu ces procès donc, qui naissent à propos de l'enregistrement de ce qui correspond aux rescrits, c'est-à-dire les lettres patentes répondant à des particuliers. Et cette activité des parlements, elle donne lieu bien sûr à des décisions, mais comme chacun sait, le juge de l'ancienne monarchie, je pense que c'est pareil dans d'autres lieux, ne dit pas grand-chose, puisqu'il ne motive pas, il ne donne jamais ses motivations. En revanche, il prend sa décision à la suite d'un procès. Et donc, comme c'était un procès, nous avons des plaidoiries. Et nous avons des plaidoiries pro et contra pour chacune de ces procédures. Et ces plaidoiries sont extrêmement intéressantes pour de nombreuses raisons. Donc c'est à partir des recherches que j'ai faites dans ce domaine que j'essaierai de donner une idée de ce qui se passe au Parlement, des arguments qu'on utilise, de montrer donc l'influence des thèses, enfin des arguments empruntés à la scolastique juridique et, disons, concrètement, l'esprit du contrôle qui est ainsi mis en œuvre à l'égard de la législation royale. Donc, ce sera le deuxième point, la civilité. Après, la civilité, selon les lois, selon la loi et selon la scolastique juridique, la civilité selon l'usus forensis, donc selon la pratique judiciaire des cours. Alors, en mentionnant que pour mener cette étude des archives, des plaidoiries dans les archives du Parlement, j'ai bien sûr été obligée de recourir à un filtre, parce que les archives du Parlement, c'est des kilomètres, et que trouver les archives sur ce point, les plaidoiries sur ce point, c'était impossible. Donc, j'ai eu recours à un texte qui me paraît très utile. Madame Hilde Semer en parle très souvent. Ce sont les fameux recueils d'extraits d'archives du Parlement de Paris. Alors, c'est pas... pourquoi est-ce que c'est intéressant? Pourquoi ce filtre? Ces recueils sont faits à la fin du XVIIe. Le nain, c'est un conseiller du Parlement. Le Parlement est attaqué à la fin du XVIIe. Ses prérogatives sont ébranlées. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une recherche d'archives pour montrer, pour donner les bases, pour justifier l'intervention des parlements. Et donc, il a fait un travail très remarquable que, je crois, aucun historien ne pourrait faire en relevant tous les procès et les plaidoiries qui contenait des indications de caractère théorique et pratique qui pouvaient vraiment éclairer cette procédure. Alors, à travers donc cette casuistique médiévale, on peut, présenter la méthode mise en œuvre par les juges, et cela donne quelques éléments pour comprendre pourquoi on a l'impression, c'est ce que disait tout à l'heure Frédéric Martin, que les principes inviolables sont constamment là, mais ils sont en permanence roulés dans le débat dialectique qui les maintient, mais ne les précise jamais et semble incapable de les préciser. Et c'est à la fois cette présence et cette présence qu'on ne peut pas cerner complètement, qu'on ne peut jamais arriver à désenclaver de cet ancrage dialectique. C'est très frustrant. Cela dit, ça n'est pas étonnant, c'était le dernier point, mais je ne ferai que l'évoquer. La méthode que mettent en œuvre les juges médiévaux, donc dans cette procédure, c'est de comparer une règle particulière à une règle romaine. Et à partir de là, d'éprouver la validité de la règle à enregistrer ou non, à partir de ce qu'ils voient à travers les règles romaines. Mais je parle ici devant un public européen, c'est la méthode que l'on appelle la méthode du droit commun qui est mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on cherche par une confrontation 5 minutes. Bon, alors ça va être extrêmement rapide, mais je dis ce que je voulais dire. On cherche à travers la confrontation avec la règle romaine à mettre à éprouver la validité d'une loi au regard des grands principes qu'on peut faire surgir du droit romain. Alors, donc, pour m'en tenir à des points sur lesquels j'ai essayé d'approfondir un peu des études que j'ai déjà faites. Donc, d'abord, en ce qui concerne la civilité des lois selon les lois et selon l'école. Alors, en ce qui concerne l'école, je pense que mon collègue et ami Diego Coglioni va vous en parler. Ce qui est très important dans l'enseignement de l'école, donc, c'est deux points. D'abord, il donne les moyens de contourner une question absolument essentielle. Est-ce que le juge peut remettre en cause la volonté du prince sans remettre en cause son pouvoir? Et ça, ils ont la réponse toute prête. Il y a deux questions, disent-ils, la quaestio potestatis et la quaestio voluntatis. La quaestio potestatis, pas question. Ça serait de la lèse majesté. Et la lèse majesté, c'est très brutal, comme chacun sait. En revanche, la quaestio voluntatis, ça, c'est une question de fait. Il y a une volonté qui se présente comme une volonté royale. Mais elle a été mise en œuvre, elle répond à une demande de particulier. Cette demande de particulier, elle est fondée sur des faits. Tout le monde le sait, les requêtes sont fondées sur un exposé des faits. Ces faits sont-ils vrais? Alors, vous voyez comme de la vérification de points particuliers, on passe peu à peu à la vérification à des questions de droit. Donc, la question de savoir si les lettres sont obreptis ou subreptis, donc si elles ont travesti la réalité ou si seulement elles l'ont un petit peu effacée, c'est ça, subreptis et obreptis, eh bien c'est essentiel parce que, disent les romanistes, et là, c'est là la grande utilité des droits romains, c'est qu'on peut circuler dans tout le corpus. Et ce n'est pas seulement les règles des rescrits qu'il faut utiliser, disent-ils, c'est que dans ce cas-là, la volonté du prince est une volonté mal informée. Une volonté mal informée, qu'est-ce que c'est? C'est une volonté qui n'existe pas, tout simplement. Donc, lorsqu'il fait cette vérification en apparence toute technique, eh bien, le juge fait quelque chose d'absolument essentiel. Il dit que la volonté qui s'exprime les lettres patentes n'est pas la volonté du roi, et que par conséquent, bien évidemment, il a tout le droit de les invalider. Deuxième point, c'est important, les commentaires de Contraius. À travers ces commentaires, disent les magistri, on peut faire deux types de contrôle. Commentaire de légalité, la loi supérieure, la loi particulière doit respecter la loi générale. Bon. Deuxième point, Contraius, ça vise, disent-ils, le droit naturel. Alors là, sur ce point, leur enseignement n'est pas directement repris, mais il va avoir une influence. En fait, la loi doit respecter le droit naturel. Et alors donc, Alors, donc le deuxième point sur lequel j'ai essayé d'approfondir un peu ma réflexion, c'est cette question des lois. Bon, des lois qui se répètent. Il y en a au moins une demi-douzaine qui ne disent pas toutes la même chose, mais globalement la même chose. Pourquoi est-ce que le législateur se répète? Et là aussi, l'interprétation qu'on va donner est assez essentielle. Bon, il se répète tout simplement parce qu'il veut marquer qu'il dit toujours la même chose et que par là même, il veut échapper au temps. Donc, pour moi, c'est une sorte de tentative du législateur ordinaire pour se muer en législateur constituant, celui qui impose sa loi au législateur qui va lui succéder. Deuxième point, je vais terminer par là, mais ce sera un point, enfin, pour moi, c'est un point assez important. Dans l'une de ces mesures, on rencontre, il y a des spécialistes de Baudin dans cette salle, ce que Baudin appelle, d'un terme un peu curieux, qui m'a toujours fasciné, la dérogatoire des dérogatoires. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là, cette clause? La dérogatoire des dérogatoires, elle est contenue dans une de ces lois. Par cette clause, le législateur du moment interdit au législateur, donc il abroge par avance la clause qui dérogerait à sa propre loi. Donc il interdit au législateur qui lui suivrait de remettre en cause ce qu'il vient. Alors c'est une clause qu'on retrouve dans plusieurs lois portant précisément sur des problèmes essentiels de la monarchie française, par exemple la loi instituant la régence, et pourvu d'une clause de dérogation. Et Baudin dit non, ce n'est pas possible, le législateur se lie les mains, et il ne peut pas se lier les mains. Alors, donc, ça me conduit à un point, le point sur lequel je voulais terminer. Pourquoi est-ce que une constitution est constamment présente, enfin, des normes de caractère fondamental sont constamment présentes dans le discours des juristes? Pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas en sortir pour être fixées? Alors, pour des tas de raisons, mais en particulier donc, parce qu'on est parti pour construire l'État d'un pouvoir considéré comme absolu, qui doit toujours être absolu et qui donc ne peut pas lui-même s'ériger en constituant. Et pourquoi, donc, la question finale est pourquoi est-ce qu'en fait il ne peut pas y avoir de moment constituant dans cette ancienne monarchie? Il ne peut pas parce que soit il faut passer, faut changer de paradigme et dire que c'est le peuple qui va apparaître en constituant, soit il faut que le souverain se mette à la place de Dieu. Et je terminerai donc par une très belle formule qui court dans l'histoire de la pensée juridique et politique depuis longtemps et qui est reprise par Portalis, le grand codificateur français, et qui donne cette définition de la Constitution. La Constitution, c'est la parole du constituant, enfin de la divinité, pardon, qui parla une fois pour être obéi toujours. Et ça, c'est ce qui est impossible dans l'ancienne monarchie. Je vous remercie de votre attention.